Laudetur Jesus Christus.
Près de 7 millions de Français ont sollicité de l'aide alimentaire en 2020. C'est ce qui ressort du rapport annuel du Secours catholique publié ce jeudi. L'ONG pointe une augmentation inquiétante de la précarité. Nous entendrons son délégué général au début de ce journal. Une nouvelle manifestation contre le putsch des militaires ce matin à Khartoum, la capitale soudanaise. Elle a été dispersée par les forces de sécurité. Hier, la répression a été meurtrière puisque au moins 15 personnes ont été tuées. À la une de ce journal également, l'Allemagne frappée par une violente vague de contagion au Covid. Angela Merkel doit rencontrer cet après-midi les présidents des Länder. Cette crise sanitaire a aussi des répercussions politiques, nous dira notre correspondante à Berlin. Et puis les talibans demandent aux États-Unis de dégeler leurs avoirs de la banque centrale. Les islamistes de Kaboul qui ont un cruel besoin d'argent alors que la famine guette des millions d'Afghans.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. En France, le Secours catholique a publié aujourd'hui son rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans le pays. FAIM de dignité, c'est le nom de l'enquête menée. Une enquête qui indique une augmentation inquiétante de la précarité un peu partout sur le territoire. En 2020, ce sont ainsi près de 7 millions de Français qui ont eu besoin de l'aide alimentaire pour survivre. Vincent Destival, délégué général du Secours catholique, revient sur ce constat préoccupant.
On peut pas vraiment dire que la crise sanitaire est à l'origine de nouvelles formes de pauvreté. C'est plutôt un accélérateur d'un basculement dans la pauvreté. On a des chiffres du ministère des Affaires sociales en France qui disent que le nombre de personnes qui sollicitent l'aide alimentaire a presque triplé au cours des 10 dernières années et qu'aujourd'hui on a près de 7 millions de personnes qui, pour vivre, ont besoin de solliciter l'aide alimentaire. C'est presque 10% de la population française. Donc c'est un chiffre qui nous a beaucoup interpellés, qui nous dit mais c'est quoi cette pauvreté qui pousse autant de personnes à devoir solliciter l'aide alimentaire? On a beaucoup de femmes seules avec enfants et voilà, c'est quelque chose qui est préoccupant pour l'avenir de notre pays parce que des enfants qui grandissent dans la pauvreté, ben on leur construit quand même un avenir compliqué. Il y a tous les hommes, notamment, qui se trouvent à la rue. Et puis, il y a aussi tous les migrants, tous les étrangers qui arrivent en France. Pendant longtemps, soit ils n'ont aucun revenu, soit ils arrivent à vivre avec du travail au noir, du travail non déclaré. Mais ils se trouvent quand même globalement dans une situation extrêmement fragile.
Vincent Destival, délégué général du Secours catholique, interrogé par Claire Riobé. Nous reviendrons sur ce rapport sur la pauvreté en France dans notre édition de 18h. La pêche empoisonne toujours les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Paris a dénoncé ce matin l'absence de coopération de l'île anglo-normande de Jersey. Il est définitivement évident que Jersey ne respecte pas l'accord du Brexit, a dénoncé la ministre de la Mer, Annick Girardin, dans une intervention aux assises de la pêche. La France qui dénonce le peu de licences accordées à ses bateaux de pêche. Selon l'accord du Brexit, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Je vous le disais en titre, les manifestations se poursuivent au Soudan et la répression également. Au lendemain des violences qui ont fait 15 morts, les forces de sécurité ont à nouveau tiré ce matin des grenades lacrymogènes pour déloger les manifestants rassemblés à Khartoum, la capitale, venus dénoncer le coup d'État du 25 octobre dernier, Hélène Détombe.
Oui, Olivier, le recours à la force par la police hier, lors de la journée la plus sanglante de ces trois dernières semaines, n'a pas découragé les manifestants qui sont restés toutes la nuit rassemblée autour de barricades dans la banlieue de Khartoum, la même où hier 11 personnes sont mortes, visées à la tête, au cou ou au torse, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Ce matin, les contestataires ont été délogés lors d'une nouvelle démonstration de force de la police, alors que les communications téléphoniques étaient rétablies. L'association des professionnels soudanais, composée d'avocats, d'ingénieurs, de médecins, d'universitaires et d'enseignants, a dénoncé des crimes contre l'humanité. Depuis le coup d'État, 39 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. La vice-secrétaire d'État américaine pour les affaires africaines a condamné ce jeudi matin la violence contre des manifestants pacifiques. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, actuellement au Kenya, a lui annoncé hier être prêt à soutenir de nouveau le Soudan à condition que la légitimité du gouvernement soit restaurée. Les États-Unis ont suspendu 700 millions de dollars d'aide à Khartoum suite au coup d'État mené par le général Abdel Fattah al-Burhan.
Merci beaucoup Hélène Détombe. Deuxième étape de la tournée africaine d'Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain est attendu ce jeudi au Nigeria, pays le plus peuplé du continent. Après avoir entamé hier sa visite au Kenya, le Nigeria, où au moins 43 personnes ont été tuées en début de semaine dans le nord-ouest du pays. Des gangs criminels mènent régulièrement des attaques contre des villages. Les autorités nigériennes qui semblent démunies face à ces violences endémiques. Le G7 appelle le Bélarus à mettre fin immédiatement à la crise migratoire à la frontière avec la Pologne. La situation de milliers de migrants bloqués entre les deux pays est toujours très délicate. De son côté, la Russie, protecteur du Bélarus, s'est défendue ce matin. Les responsables européens doivent cesser d'accuser la Russie de tous les maux, a estimé le Kremlin. L'Ukraine, elle, a l'intention d'acheter des armes à l'Occident face à l'agressivité russe. C'est ce qu'a confié le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Une agressivité qui s'est considérablement renforcée ces dernières semaines, a-t-il déploré. Les États-Unis, l'OTAN ou encore l'Union européenne avaient fait part de leurs préoccupations face au mouvement de troupes russes non loin de la frontière ukrainienne. L'Ukraine, où la pandémie de Covid est toujours très présente, la nouvelle vague du variant Delta frappe le pays et davantage les enfants. La campagne de vaccination dans le pays a pris beaucoup de retard. Lundi dernier, le président ukrainien avait annoncé une indemnisation pour les personnes qui se feraient vacciner. Autre situation sanitaire préoccupante en Allemagne. Le pays connaît depuis plusieurs jours une flambée des cas de contagion de Covid-19. Plus de 65 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Ce jeudi, le Bundestag se penche sur un texte de loi pour tenter de juguler la vague. La chancelière Angela Merkel rencontrera, elle, dans l'après-midi, les présidents des régions. Politiquement aussi, la pression monte. À Berlin, Delphine Herbollier.
La situation est dramatique et elle va le devenir encore plus dans les prochaines semaines. Ce jeudi matin, dans l'hémicycle de Bundestag, le constat est dressé par quasiment tous les partis politiques. L'Allemagne voit en effet s'abattre la quatrième vague de coronavirus avec une force inattendue. La faute à un taux de vaccination encore trop faible et à un manque d'anticipation de la part des diverses autorités. Hier, 65 000 nouveaux cas ont été enregistrés, un record absolu. Les hôpitaux dans certaines régions sont débordés. C'est le cas dans la Saxe, en Thuringe et en Bavière. Hier, plusieurs patients ont même dû être transférés en Italie en début de semaine, faute de place dans les hôpitaux bavarois. La situation divise aussi la classe politique alors que l'Allemagne est en pleine transition avec un gouvernement sortant qui gère les affaires courantes et un autre en formation. Ce jeudi, on a assisté à une vraie passe d'armes entre ces deux camps. Qui est responsable de la situation actuelle ? Que faut-il faire ? Le possible futur gouvernement d'Olaf Scholz a fait passer son premier texte de loi avec un catalogue de mesures pour tenter de briser cette quatrième vague. Un texte rejeté en bloc par la nouvelle opposition. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
En Afghanistan, les talibans ont appelé hier les États-Unis à rendre les avoirs de la banque centrale qui sont gelés depuis la chute de l'ancien régime au mois d'août dernier. Le Fonds monétaire international a également suspendu un versement de 450 millions de dollars. Ces sanctions financières qui pèsent lourdement sur l'économie afghane alors que le pays est au bord de la famine. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
La sécheresse de ces derniers mois, conjuguée aux sanctions financières américaines depuis la prise de pouvoir des talibans, ont mis le pays au bord du gouffre. Le système bancaire s'est effondré. La représentante de l'ONU pour l'Afghanistan a indiqué que 23 millions de personnes souffraient de malnutrition. Mais les sanctions sont parties pour durer. Les talibans rechignent à accepter les demandes de la communauté internationale qui presse les islamistes de rompre avec les groupes djihadistes, en particulier Al-Qaïda, et d'ouvrir leur gouvernement à d'autres factions politiques. Les sanctions américaines n'ont donc pas eu d'effet notable sur l'attitude des talibans. Pire, elles aggravent la situation humanitaire. Pour l'ONU, cette impasse met la population au pied du mur et risque d'alimenter le terrorisme, le trafic de drogue et la crise migratoire. En dépit des déclarations rassurantes des talibans, Daesh continue sa campagne d'attentats. Une attaque à la bombe a fait un mort et cinq blessés à Kaboul samedi dernier. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Taïwan affiche ses ambitions militaires. L'île a officialisé aujourd'hui le lancement de son premier escadron d'avions de chasse américains F-16 lors d'une cérémonie officielle. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi rappelant que la Chine s'opposait à tout contact officiel entre les États-Unis et Taïwan. Avant de refermer ce journal, sachez qu'en France, sœur Véronique Margron a été réélue ce jeudi à la tête de la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France. La religieuse et théologienne dominicaine présidera cette structure pour 4 années supplémentaire. La COREF qui tient actuellement et jusqu'à demain son assemblée générale à Lourdes, largement consacrée à la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera bien entendu à 18h. Excellent après-midi.